Salut, salut, bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, je réagis à un article de Patrick Lagacé, avec qui, généralement, je suis d'accord. Il est dans plus de controverses que jamais actuellement parce qu'il fait des articles qui sont à saveur très élitiste. Évidemment, quand on prend juste les grands titres, ça fait en sorte que ça a de l'air comme si c'était épouvantable. De un, être élitiste, ça ne veut pas dire que c'est un défaut. Évidemment, je voyais de quoi aujourd'hui dans... Je sais plus c'était quoi dans une de mes lectures de ce matin, qui disait... Ah, c'était dans Charlie Hebdo, qui disait « Les Français trouvent ça fantastique. Les Français trouvent fantastique l'élite française dans la mesure où ils sentent qu'ils peuvent y avoir accès et ils trouvent ça pourri dans la mesure où ils réalisent qu'ils n'atteindront jamais cette place-là. » Je trouve que c'est vraiment fort. C'est-à-dire que, bref, aujourd'hui, son article s'appelle « Un jeu dangereux ». Sa prémisse, c'est que les Québécois ont acheté l'idée du confinement, l'idée de tout ça, grâce à la science. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est divisé en deux. Il y a ceux qui croient à ce que les experts, les virologues, les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique, les blablabla. Et de l'autre côté, les complotistes, puis un peu entre les deux, inévitablement, des gens, mettons, qui peuvent critiquer non pas l'idée même du virus, mais l'application, la réaction qu'on en fait au niveau des politiques puis des mesures sanitaires. Bon, parfait. Puis donc, pour lui, il y a un clan de gens qui adhèrent pas à ce qui est scientifique, qui est prouvé, qui est rationnel, qui est intelligent. Puis les autres qui... serait dans une mouvance où on adhère aux faits scientifiques. Non. La seule raison pour laquelle il y a de l'adhésion, c'est la peur. C'est tout. S'il y a du monde qui met deux masques, s'il y a du monde qui dise « tu pourrais venir chez nous », s'il y a des gens, quand les gyms ouvrent, qui ne retournent pas au gym, alors que c'est permis, pas là, mais ça l'a été pendant 2-3 semaines, moi je suis allé au cinéma, j'y vais au moins 2 fois par semaine, en un mot, moi, quand c'est permis, je l'utilise. Quand c'est pas permis, je l'utilise pas. C'est quoi qui fait la différence entre moi et quelqu'un qui s'occupe de ce qui est scientifique? C'est la peur, point barre. Moi, je crois tout ça. Je m'en remets aveuglément pour toutes sortes de raisons que j'ai comptées 1000 fois. Mais quand des gens que je juge qui sont des experts dans leur domaine se prononcent, je dis pas qu'ils ont 100% raison, mais j'ai aucune raison de pas y croire. C'est ça la logique. Mais la raison pour laquelle les gens sont encabanés puis qui acceptent, c'est la peur. C'est pas la science. C'est pas qu'ils se disent « Ah, la science a donc raison. » Ça vient après. Faut bien voir c'est quoi comment ça ruisselle un raisonnement, tu sais. Puis ça, la peur, ça fait partie de la vie. C'est nécessaire. Puis je vois que il y a beaucoup de démarches pour faire en sorte d'éradiquer ça, tu sais. Moi, je suis un grand ennemi de la peur au plan personnel. C'est-à-dire que ça existe, c'est normal. Les réflexes sont basés un peu là-dessus, c'est une conjonction avec la peur. Tu vois un rond rouge qui chauffe sur le poil, t'as peur de mettre ta main là parce qu'à quelque part t'as su, bon, comprenez-vous. Cette émotion-là, c'est pas un sentiment, c'est une émotion. C'est intrinsèque au règne animal, tu sais. C'est une question de survie. Si on avait peur de rien, on mourrait le lendemain parce que tout à coup, imaginez. Ça fait que c'est pas que le rationnel. En un mot, si vous regardez des deux côtés de la rue, vous pouvez dire, ben, c'est parce que rationnellement, il faut que je sache. Oui, mais c'est en grande partie parce que tu te dis, j'ai peur de me faire frapper, comprenez-vous? Mais ça, c'est la même affaire dans plein d'affaires. Puis je vais vous amener deux volets, je vais croiser deux informations avec ça. La première, c'est tout ce qu'on dit sa police, sans cesse, ça arrête jamais, parce que taper sa police, c'est facile. Taper sur le pouvoir, c'est facile. C'est que taper sa police, c'est encore plus facile. Là, on parle que... dans le congrès là, de Projet Montréal. C'est Projet Montréal, en tout cas, le parti politique de Valérie Plante. Ils ont amené l'idée de désarmer une partie de la police puis de discuter de ça. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre aucune discussion. C'est même peut-être possible, basé sur les vraies données, non pas juste sur un sentiment, justement, que s'il y avait certaines interventions policières qui étaient faites par un groupe de policiers qui étaient non armés, ça pourrait être meilleur. J'ai rien contre... C'est des trucs qui se discutent, qui s'étudient. Quand tout à coup, l'idée, c'est de rendre la police moins efficace parce que plus gentille ou autre, bien ça, je trouve que c'est utopique. Donc, c'est tout à fait irréaliste. Mais c'est parce que à travers tout ça, il y a un discours parallèle qui est la police qui s'occupe un peu avec les travailleurs sociaux, etc. Bon, blablabla. Tu sais, il y a une mouvance un peu de pacifier la police parce que supposément elle serait intrinsèquement raciste ou autre. Tout ça, c'est des questions valables. Le point, c'est qu'il faut jamais oublier que pour la police soit efficace, puis on va comprendre pour qui après. Pour que la police soit efficace, faut que j'en aie peur. Je suis désolé. C'est pas un vendeur chez Yellow, là. Lui, il faut pas que j'en aie peur. Malheureusement, c'est souvent le cas. Mais quelqu'un qui est un vendeur, si on en a peur, c'est parce qu'on pense qu'il va faire quelque chose qui sera pas honnête ou peu importe. On devrait pas, comprenez-vous? On devrait, mais je comprends qu'on le fasse, mais on devrait aveuglément faire la Sainte-Catherine, se promener au Simons à Place Sainte-Foy, puis voir tous ces gens-là comme justement le titre qu'ils se donnent tout le temps, c'est-à-dire des conseillers. Ils ne veulent pas être vus comme des vendeurs, ils veulent être vus comme des conseillers. Un bon vendeur, c'est aussi effectivement un conseiller. On n'est pas supposé en avoir peur, mais on en a peur. On a peur de se faire avoir, on a peur de se faire vendre de quoi qui est pas bon, blablabla. Mais la police, faut en avoir peur. Je suis désolé, c'est pas notre ami. Moi, la police, là, puis ça c'est l'autre volet, elle travaille pour moi. Elle travaille pas pour les autres. Je reviendrai pas sur le podcast que j'ai fait la semaine passée. Ça a été très populaire. Mais je veux juste vous montrer que la peur dans une société, c'est pas quelque chose qu'il faut éradiquer. C'est quelque chose qui est normal, qui existe. C'est-à-dire que l'honnête citoyen, à quelque part, doit savoir que le citoyen malhonnête, mal intentionné, a peur de faire un geste pour lequel je serai la victime. Donc, le virus, arrêtez de chercher de midi à 14 heures. Les histoires de science ou pas. Ça, c'est ce qui fait qu'on adhère à une réalité. Mais après ça, qu'est-ce qui fait qu'on reste chez nous, qu'on met un masque tout? C'est la peur de pogner le virus, puis c'est tout à fait correct. C'est normal. Il y a des peurs qui sont très saines, qui deviennent des moteurs pour faire une action qui est adéquate. Le problème, c'est quand tout à coup, tu passes ta vie à gérer le risque. Puis ça aussi, c'est un de mes thèmes préférés, vous le savez. Quand tu es tout le temps en train de dire « Ah, voici la bonne décision », puis que dans le bout de ligne, la bonne décision, c'est juste celle qui comporte le moins de risques, puis donc, finalement, on va faire le statu quo. Mais ça, cette peur-là, moi, je trouve qu'elle est zéro. J'ai pas vécu de même. Je veux pas devenir de même. Ça fait que c'est, évidemment, tout ça, c'est loin d'être... Ça se tranche pas au couteau. Parce que c'est quand le temps d'être audacieux, c'est quand le temps d'être peureux, quand est-ce qu'on laisse sa blonde parce que c'est invivable, quand est-ce que c'est juste parce qu'on n'est pas tolérant. Hey, c'est gérer une vie, c'est une job, là. Ça fait qu'avant de crier des noms à tout le monde, l'idée, c'est juste... Mais par contre, ça n'empêche pas de réfléchir puis d'essayer de décortiquer le truc. Mais voilà, tu sais, c'est vraiment... Ça fait que, donc, au niveau de la police, la peur, c'est super important. Au niveau de la gestion d'une pandémie, la peur, ça joue un rôle beaucoup plus important que de comprendre ou non ce qui se passe, et d'en avoir peur du virus, puis de faire en sorte que, OK... Puis, ça fait qu'évidemment, il ne faut pas que ça paralyse la réflexion. Puis encore, je veux dire, moi, j'ai décidé de ne pas réfléchir à cette période-là, qui empoisonne certaines personnes dans mon entourage de façon manifeste depuis plus d'un an, avec aucune possibilité d'agir. Je le répète, moi, s'il y a le feu dans le building, je veux qu'on me le dise. Mais si mon voisin trouve que je suis un pourri, un zéro, mais que je ne suis pas au courant, ça change quoi dans ma vie? Je ne veux pas être au courant. C'est ce que je vous ai déjà expliqué, être pragmatique. C'est-à-dire qu'entre deux idées qui sont complètement contraires, si au final, il ne change rien ni une ni l'autre, c'est le cas masque-anti-masque, ben moi, je ne m'en occupe pas. Je suis pragmatique. C'est-à-dire, laquelle entre masque et anti-masque est la meilleure politique? Est-ce que, anyway, je vais être pogné pour en mettre un? Oui. Au suivant. Ce sujet-là ne m'intéresse plus. Dans l'action, je parle. Il peut m'intéresser perso. Le troisième volet où je dis que la peur devrait être instaurée beaucoup plus forte, c'est dans les violences conjugales. Donc, perpétré en écrasante majorité par des hommes, bien tristement. Il y a trois volets à ça, pour moi, si on veut éradiquer la violence conjugale. Il y en a trois volets. Il n'y en a pas rien qu'un ni deux, il y en a trois. Le premier, c'est faire en sorte que les gars apprennent à être contrariés, parce qu'un gars qui est violent, c'est un gars qui est contrarié et pour qui la solution, c'est de prendre contrôle totalement de sa blonde sous forme violence, intimidation, manipulation. Mais à la base, c'est quelqu'un qui est contrarié. Donc, tu n'as pas de raison d'être violent si les affaires se déroulent comme tu veux. Or, interagir avec quelqu'un, c'est pas faire ce qu'on veut. Le fameux « ma liberté commence où la tienne finit » et vice-versa. Voilà. Deux, Il faut que les filles soient sensibilisées aussi à c'est quoi des gestes qui sont pas acceptables. Parce que il y a des filles qui vivront jamais aucune violence conjugale, parce que dès qu'il y a des indices de ça, ils débarquent. Le problème qu'on parle jamais de ce volet-là, c'est que c'est comme si tout coup, on mettait une partie de la responsabilité sur le dos des filles. C'est plate parce que c'est un pur amalgame. La réalité, c'est que 100% d'une violence, quelle que soit de sa forme, est la responsabilité de la personne qui fait la violence. C'est indéniable, c'est pas à discuter. C'est pas « ouais, mais tu sais, t'as couru après ». Non, zéro. Par contre, manifestement, il y a des filles qui sont plus susceptibles de voir cette espèce d'escalade-là qui se passe, que le gars, il est fin au début, puis après ça, il l'est moins, puis qui reste pour toutes sortes de raisons, ils ont eu un mauvais modèle ou autre. Il n'y a pas de gêne de parler de ça. Vous pouvez ne pas intervenir à ce niveau-là, mais si ça vous tente de régler ce problème-là, bien, il va falloir que tous les aspects soient mis de l'avant. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour que ça arrête vraiment et non pas « Ah, que ça arrête, mais ça, ce bout-là, il faudra faire attention, ça paraît mal. » Mais le troisième volet, il faut que les gars aient peur. Il faut, je ne sais pas comment remarquer ce bout-là, je ne sais pas comment le faire. Mais comme MeToo a fait peur à plein de gars en se disant « Calvasse, là, OK, ça, telle affaire. » Puis je m'excuse, mais ça a été efficace. Est-ce qu'il y a eu des corollaires, comment je dirais ça, donc des effets pervers du genre, il y a peut-être plein de gars aujourd'hui qui hésitent puis que les filles se retrouvent encore plus à devoir faire toute la job quand ils sont célibataires parce que les gars les approchent même plus autres? Je le sais pas. Oui, non, peut-être. J'ai pas d'idée de ça. Je sais pas si ça s'étudie. Je sais pas. Mais bref, probablement, j'ose espérer que tout ce mouvement-là a créé une crainte chez les gars en général, tout le monde, moi inclus, là, je suis pas meilleur que les autres, en se disant « Oh, attends un peu, peut-être que je faisais ça, puis que ça se fait pas. » Puis on parle pas d'un viol, là, on parle n'importe quoi, qui est un geste que finalement on se dit « Hey, aujourd'hui, peut-être que tu sais c'est mal vu. » En un mot, s'il y a pas de peur, il y a pas d'efficacité dans quelque chose qui devrait s'améliorer. C'est juste ça. Dans le cas des relations humaines, dans le cas d'un achat sur Amazon, c'est autre chose. Là. Puis encore, les gens ont peur de se faire fourrer, ça fait qu'on regarde les étoiles. Comprenez-vous? Ce sentiment-là, il n'est pas malsain en soi. C'est juste ça mon point aujourd'hui. Puis là, je reviens avec l'exemple de la violence conjugale. Bien, il faut que les gars aient peur. Il faut que le gars violent ait peur qu'il se passe de quoi. Il va falloir que ça fasse partie du catalogue des moyens mis de l'avant. C'est-à-dire que je sais bien que ça paraît mal, mais je le répète, moi, ces trois volets-là, d'après moi, s'ils sont mis de l'avant, réfléchis, puis qu'on trouve une façon, je crois vraiment que là, ça, on peut voir les chiffres dropper épouvantables. Celui où, moi, j'ai vraiment le goût d'intervenir, je vais vous parler de ça en terminant, c'est sur l'aspect de la contrariété. C'est vraiment une découverte cette année. C'est tout simple, mais à un moment donné, j'en entends pas parler tant que ça. C'est-à-dire, cette idée-là d'être capable d'apprendre à être contrarié. Puis, j'ai parlé dans différents podcasts, avec vous autres, je suis pas trop sûr, mais dans mon Patreon, j'en ai parlé beaucoup quand je fais ma vidéo chaque vendredi. Puis, juste hier, il y a deux gars qui m'ont écrit en disant « Hey, moi, ça m'intéresse ton livre. » Puis je faisais même pas de parallèle avec la violence. Là. C'est pas deux gars que je connais perso, mais qui me suivent assidûment, Luc puis Jean-François. Et clairement, c'est pas des gars violents, ça par rapport. Mais il reste que... ils m'ont écrit, puis d'autres avant ça, mais c'est les deux d'hier, disant « Hey, moi, je suis partant pour ton livre sur apprendre à être contrarié. » Puis parce que j'ai dit que c'est un projet qui m'intéresse. Je pense que ça pourrait faire une job auprès de bien du monde. Puis, mon problème, c'est que apprendre à être contrarié, c'est un titre pourri. Zéro, je retiens rien. Je suis même très surpris que aussi clairement mis de l'avant de même que des gars me disent « Hey, ça m'intéresse ». Je me disais, ça va intéresser personne, mais ça interpelle, je pense, dans la vraie vie, beaucoup de monde. Puis c'est Jean-François, quand il m'écrit, il dit « Ah, ça me fait penser à ta fameuse théorie du « ouin et pis ». Ben, j'ai fait « Tabarouette, Jean-François ». T'as trouvé le titre du livre. Ça me tente vraiment de l'écrire. Ça s'appellerait « Ouin, virgule, pi, point d'interrogation ». Puis le sous-titre, c'est « Ré, entre parenthèses, apprendre à être contrarié ». Puis là, j'ai commencé mon plan. Puis finalement, ma théorie, mais j'en suis absolument convaincu, mais ça reste un essai, là, tu sais, c'est que les deux volets pour apprendre à être contrarié, c'est quand on reçoit une contrariété, faire le pour et le contre. Puis aussi choisir qu'est-ce qu'on laisse entrer. C'est-à-dire, c'est aussi une méthode pour bien vivre les médias sociaux. Puis je suis bien placé pour parler de tout ça parce que je reçois aucune critique négative ces médias sociaux. Jamais. Oubliez pas, j'ai été un an de temps à débattre avec Éric Duhaime. Un an, tous les jours. Jamais j'ai reçu de critiques négatives. Je suis pas en train de dire que tout le monde m'aime. Je suis en train de dire qu'il y a une façon de dealer avec autrui, avec les médias sociaux, telle affaire, qui fait que, tout à coup... C'est que je me dis, il faut que je parle de ça, parce que deux des gros problèmes, c'est violence conjugale, puis pourriture, ces médias sociaux que c'est invivable à plusieurs égards pour bien du monde. C'est que c'est facile quand tu passes pas à TV comme Danny Turcotte de dire moi je reçois pas blablabla, je suis en dessous du radar, j'ai pas des millions, tu sais, je comprends tout ça. Mais il reste que je le sais que j'ai une méthode qui est efficace puis qui fait en sorte que tout se vit mieux puis plus heureux. Ça fait que je vous en parle en fin d'épisode aujourd'hui parce que je veux avoir d'autres feedbacks de votre part. Ça vous intéresse-tu ce thème-là? Ça vous interpelle-tu? Aimez-vous le titre? Ça m'intéresse vraiment d'avoir parce que j'ai même ouvert hier un GoFundMe puis mon idée ce serait de dire pour pas travailler dans le vide non plus là, parce que moi je commencerai pas à courir après un éditeur. Si un éditeur veut avoir mon livre, parfait, mais il va être fini quand je vais l'envoyer. Mon idée c'est de mettre le plan sur un GoFundMe. Puis quand j'ai 100 personnes qui m'ont donné 10$, 1000$, ces 100 personnes-là vont avoir le livre, puis je l'écris. C'est-à-dire qu'eux autres vont l'avoir à 10. Dans la vraie vie, il va se vendre probablement 20. Court, hein? 100 quelques pages. Avec tout ce que... Alors, est-ce que ça vous interpelle, oui ou non? Mais c'était plus fort que moi, je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que ça a directement rapport avec le thème que avoir peur, ça rapport. Que c'est sain, puis qu'il y a une façon aussi de bien dealer avec tout ça, c'est d'apprendre à être contrarié. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires. Merci. Une excellente journée.